France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Il y a 20 ans, jour pour jour, le 18 décembre 2001, Gilbert Bécaud nous quittait, laissant une œuvre immense et des chansons que chacun fredonne encore en France et ailleurs. Mais Bécaud a connu aussi une forme d'éclipse, voire de dédain très injuste en regard de sa place dans la chanson française. Sa fille Émilie Bécaud est là pour nous en parler. En même temps que paraît le coffret « Je reviens te chercher », elle est accompagnée du grand auteur Claude Lemel, qui co-signe avec Jacques Pessis un livre intitulé « On revient te chercher ». Gilbert Bécaud, le retour, c'est le programme ce matin. Détonnez-moi, Benoît.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Ben, tu vois, j'ai pas trop changé, et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné? Qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus, on se retrouve les mains nues. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher, tremblant comme un jeune marié, mais plus riche qu'au jour passé de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher, j'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Je reviens te chercher.
Bonjour Émilie Bécaud.
Bonjour.
Elle a un sens particulier pour vous, cette chanson que vous avez fait figurer en tête, on peut dire, de ce coffret réalisé avec Laurent Ballandras, d'hommage à Gilbert Bécaud, « Je reviens te chercher ».
Oui, elle a un sens. Papa a écrit cette chanson pour ma maman.
Voilà. Et en 1969, je crois.
Hein. C'est ça. Et en fait, je pense que c'est très clair dans la chanson. Il est parti la rechercher.
Voilà.
Et depuis, je suis là.
Et depuis, vous êtes là.
C'est ça.
Mais après, on peut dire une vingtaine d'années depuis la disparition de votre père, où vous avez peut-être eu besoin de tenir les choses un peu à distance. Et puis aujourd'hui, vous vous replongez, on peut dire, dans cet héritage de Gilbert Bécaud.
Les premières années sont quand même un peu compliquées à gérer.
Oui, oui.
Parce que c'est pas juste Gilbert Bécaud, c'est aussi mon papa.
Oui.
Donc c'est compliqué à gérer les premières années. Après, tu prends sur toi et t'avances. Et
voilà.
Puis tu le fais avancer du mieux que tu peux. Et aujourd'hui, on est arrivé là, avec tous nos efforts, avec Laurent, avec Claude, avec tout le monde.
Avec ce triple CD, donc, avec des raretés et puis aussi des grands tubes de Gilbert Bécaud. Avec aussi, j'ai envie de dire, un moment, Bécaud, qui arrive peut-être. Je l'avais déjà senti il y a quelque temps dans cette émission, quand j'avais invité Salvatore Adamo, qui avait lui-même voulu rendre hommage à Gilbert Bécaud. Et j'entends toujours ici plein de gens qui ont envie de rendre hommage à Gilbert Bécaud et qui s'indignent presque qu'il ne soit pas tout à fait à sa place, Claude Lemel. Est-ce que c'est votre sentiment également?
Oh, je crois que c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup, beaucoup de gens. Oui. C'est évident que Gilbert, actuellement, est dans une espèce de purgatoire qu'il ne mérite absolument pas. Donc, avec Jacques Pessis, mon co-auteur, avec Émilie, avec la famille, avec Laurent, etc. Bon.
Vous avez lancé l'opération Bécaud.
Oui, oui, c'est absolument nécessaire. Bon, de redécouvrir cet immense compositeur, cet immense interprète. Enfin, bon, il fait partie tout de même des figures de proue de la chanson française,
bien sûr.
Incontestablement.
Mais bon. Est-ce que vous avez quand même téléphoné à Émilie Bécaud avant de titrer votre livre On revient te chercher, elle titrant le coffret Je reviens te chercher? Vous êtes tombés tous les deux sur la même chanson?
On s'est pas concerté, mais le titre du bouquin est dû à Jacques Pessis, c'est lui qui a eu l'idée, et bon, ça c'est effectivement bon le corollaire exact de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que bon, on trouvait que Bécaud était trop oublié, donc on a appelé ce livre Bécaud, on revient te chercher.
J'ajoute, Claude Lemel, d'abord, vous me faites grand plaisir de revenir à ce micro. J'avais déjà eu le plaisir de vous recevoir et vous reviendrez, j'espère. Vous êtes un des grands auteurs de la chanson française et vous parlez évidemment ici de votre travail avec Gilbert Bécaud. On y reviendra. Mais vous avez, là, avec votre générosité coutumière aussi, pris le temps de parler des autres auteurs de Bécaud. Vous leur rendez aussi, et on y reviendra, de beaux hommages à Louis Amade, à Jacques Vidalin. Et d'abord, puisqu'on vient de l'entendre...
Maurice Vidalin. Oui.
Et d'abord, Pierre Delanoë, qu'on vient d'entendre dans cette chanson, dont vous dites qu'il avait l'art de faire une chanson à partir de rien, ou presque.
Ah, mais c'est bon.
Une idée toute simple, il en faisait une chanson très réussie.
Ce qui était formidable, c'est que Pierre, c'était vraiment l'auteur de chansons né, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire que bon, il avait ce secret d'alchimiste. Bon, on sait que les alchimistes cherchent depuis toujours à transformer le plomb en or. Lui, le moindre mot, la moindre chose vue ou entendue, prenait chez lui l'allure tout de suite d'une chanson, la forme d'une chanson.
Ouais.
Meilleur exemple, c'est l'orange, quoi. Pourquoi ce mot orange? Parce qu'ils séchaient tous les deux. Bécaud avait horreur de sécher. Alors c'était une chose qui le tourmentait énormément. Bon, allez, crache, dis-moi un mot. Bon, il y avait un plateau de fruits. Bon, orange. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec une orange?
Voilà, fait une chanson.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec une orange? Alors brainstorming. On peut l'appeler, on peut la vendre, on peut l'accueillir, tout ça n'est pas intéressant. Ah, la voler, ça c'est mieux. Et être accusé de l'avoir volé sans l'avoir volé, c'est encore mieux. Et la chanson existe. Voilà.
Et voilà, et cette complicité évidemment entre Delanoë et Bécaud, elle est aussi au cœur de cette vie. On va y revenir, mais vraiment, elle est très très importante. Mais avant, alors, d'évoquer tous ces sujets, moi je me suis fait plaisir avec une petite Madeleine. C'est un 45 tours qui était chez mes parents, qui devait danser dans les surprises parties dans les années 50. C'est pas une des chansons les plus connues, mais je la trouve merveilleuse. La voix éclatante du jeune Bécaud avec l'orchestre de Valberg.
Ça, c'est formidable. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est incroyable. Du tonnerre de Dieu. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est mieux que bon. Ça c'est fantastique, une explosion. Mais c'est d'autres choses aussi, de plus doux, de plus tendre aussi, plus cruel et plus âpre aussi, qu'on ne peut définir ainsi. Mais ça c'est formidable, ça c'est merveilleux, ça c'est incroyable, je suis amoureux. Il y a du soleil sur son visage, de l'amour dans son cœur qui bat, comme accroché à son corsage, la vie qui veut rire aux éclats. Il y a ses 20 ans qui vagabondent, entraînant mon cœur sur ses pas. Et je répète à tout le monde, et je crie par-dessus les toits. Ça, c'est formidable, ça, c'est merveilleux, ça, c'est incroyable, du tonnerre de Dieu. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est mieux que bon. Ça, c'est fantastique. Je suis mamie, je suis mon doux. Je suis amoureux, amoureux de vous.
La première fois que Camad m'a amené Gilbert Bécaud à la campagne, je ne l'avais encore jamais entendu et je ne l'avais jamais vu. Et il me fallait réussir un dessin de lui pour son programme. Or, j'ai fait le portrait d'un premier communiant, d'un garçon très sage et sans la moindre fougue. Car c'est de la sorte qu'avec sa modestie, sa timidité, sa gentillesse, il se présentait à moi les yeux baissés. Ensuite, j'ai pensé à ce que m'avait raconté mon fils adoptif d'un pianiste fantastique et un peu fou, entendu à Montmartre, qui s'appelait Gilbert Bécaud. Et enfin, je l'ai vu et entendu moi-même, et ri de mon dessin de Sainte-Nitouche. Gilbert Bécaud, c'est la folie qui est le vrai miracle de l'enfance et que les grandes personnes cachent comme une honte. Il a eu le courage d'être excessif, ce que si peu de gens osent, et de se montrer tel qu'il est jusqu'au bout.
Gilbert, vous avez entendu ce qu'a dit Jean Cocteau, bien sûr.
Oui, il a dit que vous étiez fou.
Ben, j'en ai bien l'impression, oui.
Ben, un fou sympathique. Il a dit que vous étiez fou comme un enfant est fou. Alors, comment sont fous les enfants?
Comme je le suis.
Ce double aspect d'ailleurs de Gilbert Bécaud, Claude Lemel, que souligne ici Jean Cocteau, vous en parlez un peu dans votre livre, parce que vous dites qu'il y avait l'homme de la scène, un peu comme votre ami Joe Dassin, et puis l'homme de la vie qui était un homme beaucoup plus simple, modeste, etc.
Dans la vie, c'était quelqu'un de tout à fait normal, avec toujours cet appétit de vivre extraordinaire.
Oui.
Bon, cette passion de la vie. Mais bon, c'était un père de famille, c'était un homme bon qui vivait, mais une vie mais tout à fait ordinaire.
Voilà,
quoi.
Mais qui devenait à l'époque sur scène donc Monsieur 100 000 volts dans cette chanson, par exemple, qui nous oblige à citer un autre nom en plus d'Amade, Delanoë et Vidalin. Et vous-même, d'ailleurs, Lemel, c'est au début de Bécaud, Charles Aznavour, qui est quand même un complice très important.
Bah, c'est une obligation bien agréable et bien méritée. Oui, ils ont effectivement écrit pas mal de chansons ensemble
à leur
début. Mardi dernier, on a rendu un petit hommage à Gilbert pour la sortie du livre. Et bon, on m'avait demandé de chanter quelques chansons. Alors bon, ça m'a arrivé assez rarement. Mais j'ai choisi une chanson de chacun des grands auteurs emblématiques de Gilbert. Donc une d'Amade, une de Vidalin, une de Delanoë, mais aussi une d'Aznavour.
Aussi d'Aznavour.
C'est ainsi que j'ai, chose absolument incroyable, que j'ai chanté Meke Meke.
Voilà, une des plus célèbres des débuts.
Il l'a très bien fait.
Billy Bécaud.
Pardon.
Mais non, justement, monsieur 100 000 volts, le jeune Bécaud, qui est bien avant votre naissance,
oui.
vous avez appris à le découvrir et à l'aimer, j'imagine. Il n'y a pas seulement le Bécaud que vous avez connu, mais celui-là, il vous fascine.
Ah ben, il était plein d'énergie,
ah,
hein.
Oui, oui.
Il sautait partout. il était très excessif, oui. Mais. C'était dans sa nature.
Oui.
Il était comme ça.
Il était comme ça.
Il
oui.
était comme ça.
Bondissant dès qu'il était sur une scène, et pourtant étant très par ailleurs assez mauvais danseur. Je ne sais plus c'est vous qui dites ça, Claude Lemel, dans votre livre de souvenirs dans la vie.
C'est vrai que j'avais un problème avec ça. Sur Rosie and Jones, je ne sais pas comment il se débrouillait. Il dansait toujours à contre-temps. J'ai
oui,
jamais
alors
compris.
Un merveilleux musicien,
que,
oui.
voilà. Or que il est musicien et quand même il a vécu avec des danseuses et tout ça et qu'il a connu en étant jeune. Je n'ai jamais compris son contretemps ou sur les pieds et pas dans les doigts, si je peux me permettre.
Voilà.
Mais il faisait rien
tout
comme
le
tout le monde, c'est pour ça.
Oui.
Là, c'est François Patrice qui était un grand patron de discothèque de l'époque, qui donc dirigeait le Saint-Hilaire, qui était une boîte très très connue à l'époque.
Vous avez dit... rencontré pour la première fois Bécaud d'ailleurs.
Oui. Absolument, rue de Rennes. Et c'est lui qui m'avait dit, mais bon, Gilbert est un homme extraordinaire, bon, un grand musicien, mais il ne sait absolument pas danser.
Alors, quand des gens aujourd'hui, et ça arrive malheureusement, dédaignent un peu Gilbert Bécaud, je leur dis, mais est-ce que vous vous rendez compte le succès mondial de ses chansons, le fait qu'il est connu, même sans qu'on connaisse son nom, dans le monde entier à travers quelques airs, c'est quand même la marque d'un très grand succès dans la chanson. Savez-vous que James Brown, Nina Simone, Frank Sinatra, Elvis Presley ont chanté des chansons de Gilbert Bécaud. Il
Bob
faut le rappeler.
Dylan.
Et Bob Dylan.
Notre prix Nobel.
C'est
voilà.
vrai, Bob Dylan.
Avec deux titres en particulier, hein, on peut le dire, qui ont fait le tour du monde.
Essentiellement et maintenant, What Know My Love, et puis Je t'appartiens, l'été de Bimi. Mais il y a aussi des chansons, par exemple, comme Le jour où la pluie viendra, qui a très, très, très bien fonctionné aux États-Unis, et puis tout ce qu'il a écrit avec Neil Diamond.
Voilà, également, oui. Et alors, ce succès mondial, il continue, j'imagine, Émilie Bécaud, vous qui voyez un petit peu la façon dont son œuvre est prise, reprise. Ces deux grands thèmes, par exemple, continuent d'être chantés un peu partout.
Il tourne partout, en fait. Ouais.
Alors, je vous propose d'écouter un petit mix qu'on a fait pour l'émission avec simplement quelques versions de Et maintenant. On commencera avec Bécaud, on passera à Presley, puis à Sinatra, puis aux Temptations, puis on reviendra à Bécaud.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, what now, my love? Now that you left me, how can I live through another day? Watching my dream turn into ashes, and all my hopes into bits of clay. Once I could see, once I could feel, now I am numb, I've become unreal. I walk the night without a goal, stripped of my heart, my soul. What now, my love, now that it's over, I feel the world, I feel the world. Au moment de l'adieu, je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien.
Voilà, si quelques-uns de nos auditeurs s'imaginent que Gilbert Bécaud est un chanteur franco-français, ils ont là une petite démonstration du contraire. On aurait pu faire beaucoup d'autres compilations avec beaucoup d'autres artistes.
Ah bah oui, c'est fou, hein. Oui. C'est fou, Frank Sinatra, Elvis, tous ces gens-là. J'ai l'impression que c'est un autre siècle.
Oui, mais voilà, ils ont tous aimé Bécaud, le talent de Bécaud. Spécialement les Américains, on peut dire d'ailleurs, peut-être plus encore que les autres pays, il est vraiment entré au répertoire américain.
Au Japon, il cartonne pas mal. Hein.
Ah oui, voilà.
Ouais.
Et sans doute en Amérique du Sud également. Claude Lemel, vous évoquez cette chanson, justement, encore Pierre Delanoë,
oui.
Dans votre livre, et vous dites que Bécaud, en fait, trouvait que ça aurait été mieux au départ que le refrain soit « Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?»
Oui, parce que c'est ce que c'est que la jeune fille qui lui a inspiré la chanson, ouais, lui avait dit en repartant sur Paris « Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?» Parce que bon, son petit ami venait de la plaquer. Voilà. Et il disait à Pierre « Mais c'est comme ça qu'on parle dans la vie. »
Ouais.
Et Pierre a lutté pendant quelques jours. Et finalement, Gilbert, qui était un homme très intelligent, a fini par se rendre. comprendre.
Que vais-je bon, faire, voilà, c'était mieux pour une chanson.
Alors c'est vrai qu'on ne dit pas comme ça dans la vie, mais sur la musique c'est quand même beaucoup plus élégant et c'est beaucoup mieux. Alors bon, l'histoire m'a été racontée par Pierre.
Hein. Oui,
alors bon, je ne la garantis pas comme absolument vraie, parce que j'ai pas eu le son de cloche de Gilbert. Bon, enfin bon, connaissant un peu les rapports auteur, compositeur, interprète, ça a des chances d'être vrai, oui.
Alors c'était assez étonnant, hein, les séances d'écriture avec Gilbert Bécaud, parce que en quelque sorte il invitait, il convoquait un peu ses amis paroliers, et puis on se mettait avec le piano, un pupitre, etc. Puis il fallait travailler pendant des heures jusqu'à ce qu'il en sorte quelque chose.
Ah, c'était exactement
c'était
ça.
C'était pas oui. Je vous envoie un texte et puis tu vas le mettre en musique ou réciproquement. Hein. C'était on
non,
travaille
non, jamais,
ensemble.
Jamais, jamais. C'était avec lui. Et alors il y avait les séances qui se passaient chez lui, dans la tour ou à la ferme,
plus
tard sur la péniche.
Toujours Émilie Bécaud.
Mais aussi, il adorait que ses auteurs viennent le rejoindre quand il était en tournée.
Voyage, oui.
Et bon, on travaillait dans les hôtels. Alors, il faisait évidemment monter un piano dans chaque chambre d'hôtel.
Pour le plus grand
occupait.
Plaisir des autres.
Ben, ça, je me demande un peu ce que les voisins en pensaient. Mais on en a écrit pas mal. On a écrit des chansons à l'hôtel Amigo à Bruxelles. On a écrit aussi des chansons à Buenos Aires. Bon, et il adorait ça. Alors, le seul qui marchait pas trop là-dedans, c'était Pierre. Pierre n'aimait
pas
voyager.
Non, non,
ça, ça l'amusait pas du tout. Mais Maurice Vidalin, tonton Maurice, Émilie, lui, il adorait ça.
Alors, justement, évoquons, parce que vous avez vraiment eu la bonne idée de nous parler un peu de ces grands paroliers qui vous ont précédé dans la vie de Bécaud. On vient de parler de Delanoë. Louis Amat, c'est le premier. C'était un type assez étonnant, puisqu'il était à la fois préfet de police et poète.
Ah oui, mais c'est bon. La destiné des auteurs, bah, quand on pense que Pierre Delanoë était inspecteur des impôts, quand même,
aussi, bon,
avant d'écrire des chansons, ou Amat, préfet de police, bon...
Et pourtant, un vrai poète et un homme exquis, je crois.
Merveilleux. J'ai, l'autre jour, chanté L'absent de Louis Amat. C'est un texte magnifique, c'est un vrai poème. Par rapport aux autres chansons de ses confrères, donc celles d'Aznavour, de Delanoë et de Vidalin, j'ai eu beaucoup de mal à me la mettre dans le crâne parce que c'est un poème avec des mots qui ne sont pas habituels dans les chansons. Et vraiment, c'est tout le mérite de Gilbert aussi d'avoir réussi à les mettre en musique.
Exactement.
Alors quelquefois, je sais qu'il les triturait un petit peu pour en faire des chansons.
Vous les avez connus, ces grands amis paroliers de votre père, Vidalin, Amat, Delanoë, Émilie Bécaud?
Oui, complètement, oui. Ils venaient à la maison... Hein, Claude?
C'était des amis de la famille.
Oui, c'est tonton Claude.
Ah oui, c'est tonton Claude,
c'est
carrément.
Tonton Claude, c'est tonton Maurice, c'est Palou pour Louis Amat.
Ah bon, voilà.
Ouais, et puis la grosse voix pour Pierre Delanoë, parce qu'il avait
une très grosse voix
qui m'impressionnait énormément quand
j'étais
petite.
Et puis il râlait beaucoup sur l'évolution de la chanson française aussi. J'ai trouvé des interviews assez sévères, non?
C'était un râleur. Voilà.
C'était un râleur.
C'était sa seconde nature. Et d'ailleurs, Gilbert, à la fin, me disait c'est difficile les séances de travail avec Pierre maintenant, parce que alors, bon, quand il arrive à la péniche, il passe déjà 2 heures à râler, on perd du temps. Quoi. Et Gilbert avait horreur de perdre du temps.
Et Vidalin, alors?
Ah, Vidalin, alors là,
Maurice Vidalin.
Pour moi,
vous, c'est le meilleur.
Pour Pierre aussi. C'était le plus grand, c'était le meilleur. Ouais. Hein,
lui aussi avait été légionnaire, pour le coup.
Oui. Je sais pas s'il sentait blond le sable chaud, mais enfin bon. En tout cas, les mots n'étaient pas tièdes. C'était un homme merveilleux. Il avait été aussi géo au Club Méditerranée.
Ah oui.
Et lui, il avait vraiment ce sens de la chanson. Du mot à la fois direct mais quelquefois inattendu. Bon, par exemple dans le mur, courez vite au soleil nu tout exaucé. Voilà. Ouais, bon, c'est pas un mot qu'on attend. Et puis alors c'était celui d'entre nous, je pense, qui écrivait le plus scénique.
Ah oui, c'est voilà. Ça. Notamment une chanson comme L'Indien que vous aimez beaucoup, par exemple, qui était presque.
J'adore L'Indien, qui est une chanson
un numéro
plus ou moins
théâtre. Hein,
Elle est sublime.
Qui est une chanson plus ou moins improvisée, hein.
Ah oui.
Parce qu'avec Vidalin, ça a été le cas aussi pour La Vente aux Enchères. Gilbert le mettait devant un micro. Après quelques bières, tout de même. Bon.
Alors, il coule pas mal de whisky dans ses souvenirs. Hein,
Bon, aussi. Écoutez, c'est un secret pour personne que Gilbert aimait bien la bibine, quoi.
Et en tout cas, voilà, Vidalin, vous le saluez aussi avec beaucoup de grâce. Mais on va écouter tout de suite une chanson d'Amade, pour le coup, parce que c'est une chanson... Je dirais, c'est là où elle est géniale, c'est qu'elle n'a l'air de rien. On dirait qu'on l'a toujours entendue, que c'est presque une chanson populaire. Et en fait, c'est parce que c'est bien fait, c'est le talent, c'est l'important, c'est la rose. Hein.
Ouais.
Je crois que c'est dans toutes les mémoires. On ne sait pas forcément que c'est Gilbert Bécaud, mais c'est voilà, ça fait partie des mélodies qui nous accompagnent.
C'est ça la chanson.
Toi qui marches dans le vent. Seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important c'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en bohème, t'as le cœur comme en carême, et pourtant. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. À ton tour maintenant, que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi.
Et c'était donc évidemment toujours Gilbert Bécaud en 1967 avec cette petite merveille qui, me dit Claude Lemel, en plus est née à la maison de la radio. C'est ce qu'explique Jacques Messis dans le livre.
C'est ce que dit Jacques dans sa partie du livre.
À l'inauguration de la maison de la radio.
L'inauguration de la maison de la radio, il y avait un flic qui était là, bon, et qui faisait un petit peu la circulation, c'est normal, bon, il y avait beaucoup de monde. Puis il y avait une fleur qui avait dû tomber par terre et il faisait la circulation avec la rose. Et c'est ça voilà, qui a inspiré la chanson à Louis Amade, oui.
Alors Claude Lemel, ce qui est très touchant dans le récit que vous faites de votre histoire avec Gilbert Bécaud, c'est que quand vous étiez un tout jeune garçon, votre père était un fan de Becco à ses débuts, et vous avez grandi avec Becco, en fait.
Ah, c'était son idole. C'était son idole absolue. Le dimanche.
Là, on est dans les années 50, hein.
Oui,
parce que Becco commence en 53, à peu près.
53, hein. 54. Voilà. On avait des 78 tours. Et mon père, après le repas de famille du dimanche, passait du Becco, et je voyais les noms. Alors, c'était drôle parce que sur ce 78 tours, le nom de Pierre Delanoë était écrit de plus loin Noé.
Oui,
voilà, comme si je venais de l'Arche, voilà. Et donc, moi, c'est
pour vous, c'était une espèce d'idole, enfin de monstre sacré,
oui,
que vous ne pensiez pas rencontrer un jour.
Oui, de choses un peu irréelles aussi.
Oui, c'est ça, oui.
Je pouvais pas évidemment deviner, j'avais 8 ans, qu'un jour je serais l'ami intime de ces deux êtres-là, quoi. C'est,
voilà.
Bon, c'est dingue la vie.
Alors entre-temps, vous devenez notamment l'ami et parolier de Joe Dassin dès ses débuts, hein, dans les années 60, et puis vous allez finalement retrouver ce grand aîné qui est Becco et avec lequel vous ne pensiez pas travailler un jour.
Et c'est lui qui m'a appelé. Voilà, il m'a téléphoné. Alors, j'étais vraiment très heureux parce que s'il y avait bien un artiste avec qui j'avais envie de travailler, bon, il y en avait deux. Il y avait Serge Adjani, mais ça, c'était déjà fait.
Vous l'avez fait d'ailleurs, le Barbier.
C'était déjà fait,
entre autres.
Bon,
que j'adore.
J'ai beaucoup travaillé pour lui. Et puis, un jour, Gilbert m'a appelé en donnant rendez-vous à l'hôtel Amigo à Bruxelles.
Et du coup, vous étiez d'autant plus intimidé que ça avait été la grande vedette de votre enfance.
Ah, bah, j'avais le trac, oui.
Oui, c'est ça. Hein.
J'avais vraiment un trac fou. Et quand je suis rentré dans cette chambre de l'Amigo, j'en menais pas large, mais franchement, il m'a mis tout de suite à l'aise.
Voilà.
Vraiment. C'était un type qui m'impressionnait, évidemment, dans l'idée que je m'en faisais, mais dès que j'étais en face de lui, il était très amical, très, très gentil, et puis bon, il savait que j'avais ce trac-là, évidemment.
Oui,
et donc, tout de suite, il me l'a passé, le trac, voilà. Tout simplement.
Alors, c'était, il faut dire, une époque où peut-être déjà le succès de Becco était un peu déclinant par rapport aux années 50-60, mais vous avez d'abord signé pour lui de nouveaux succès, notamment la chanson Désiré, hein, qui a été un grand tube de
l'époque. Oui, c'était en 83, c'était un peu plus tard.
Un peu plus tard. Et vous avez aussi écrit évidemment beaucoup d'autres chansons, et je voudrais que vous nous disiez un mot de celle qu'on va écouter maintenant, qui s'appelle Desperado.
Alors, Desperado, c'est une chanson qu'on a écrite à la ferme,
voilà.
Dans la cabane. Il avait la musique et il avait le mot.
Voilà.
Il m'a donné le mot Desperado.
Desperado. Après, il fallait trouver le reste.
Ah, bah, fallait, ouais, après, débrouille-toi. Voilà. Et donc, dans le livre, il y a tout un chapitre, c'est le dernier chapitre qui est consacré à l'écriture de cette chanson, parce que j'explique un petit peu au lecteur la genèse de la chanson. Et
travail dans le détail. Qu'est-ce que c'est qu'une version, puis une autre? 100 fois sur le métier, remettez.
Voilà, je livre un certain nombre de versions, donc, qui ont précédé la version, définitive, et j'explique aussi pourquoi j'ai changé et pourquoi Gilbert m'a fait changer. Voilà. Parce que il savait quand même vraiment ce qu'il voulait chanter. Voilà.
Dans des spasmes de néon, pleure un bandoneon, ses larmes de tango. Et ma chambre a pris la mer, j'échoue à Buenos Aires, largué par un cargo. Sur le boulevard du Rhum, ça tangue un maximum, la rade est un radeau. J'ai le cœur vitriolé, la nuit m'a fusillé d'une belle dans la peau. Et je me sens desperado. Dans mon verre de brandy, j'entends des mariachis qui jouent avec ma mort. Et je danse avec la haine des valses mexicaines où je t'invite encore.
qui va tuer Pancho Villa, la fille qui s'en va, ou le combat de trop. C'est souvent pour une putain qu'aux portes du matin pleure le guerriero. Et je me sens desperado. Seul et je suis nu, l'absence est revenue, têtu comme un fado. Comme après le carnaval, le grand soleil fait mal, même au Corcovado. Oui, je me sens desperado.
Est-ce que vous pourriez me dire quelle est votre idée du bonheur, idée philosophique du bonheur, s'entend ?
J'ai l'impression que le bonheur, c'est à peu près ce que j'ai en ce moment, moi. C'est-à-dire que je fais exactement ce qui me plaît de faire, d'une part, que d'autre part, j'ai l'impression que les gens autour de moi m'approuvent, et qu'ensuite de ça, mon Dieu, matériellement, il ne me manque pas grand-chose, et que par conséquent, étant donné que matériellement il ne me manque pas grand chose, que j'ai une jolie maison, que j'ai de beaux enfants, que j'ai des amis formidables, et que je gagne suffisamment d'argent pour faire ce que je veux, c'est-à-dire, en l'occurrence, écrire des opéras quand j'en ai envie, ou écrire des cantates de Noël si ça me fait plaisir, et que j'ai les moyens de les faire exécuter, alors pour moi c'est l'image du bonheur, enfin je suis très très bien.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Des moyens, une famille, des amis, voilà le bonheur de Gilbert Bécaud, Émilie Bécaud, le bonheur qui a été le vôtre aussi dans cette enfance, dans cette ferme du Poitou où il s'était installé et où vous vivez toujours aujourd'hui. Hein.
Oui, j'y vis toujours, oui.
C'était devenu un vrai gentleman farmer en même temps qu'il était compositeur et interprète de ses chansons.
Exactement, exactement. Gentleman farmer, bien trouvé. Ouais, c'était exactement ça.
Il prenait ça au sérieux. Il faisait de l'élevage bio avant l'heure.
C'est ça, du bio avant l'heure. Alors, on est passé par pas mal d'animaux un peu spéciaux, n'est-ce pas, Claude? sanglier, on a eu un sanglier.
Oui, c'est vrai, oui, il y a même un loup, je crois.
Ouais, alors la sanglier louve. S'appelait Simone, louve. La loup s'appelait Diba.
Un lama qui crache dans la figure de Claude
voilà.
Lemaitre.
Oui, Célina. Elle pouvait pas me voir, oui, ça s'appelait Célina, et dès qu'elle me voyait arriver, c'est elle ça. Préparait son crachat. Voilà.
Et il y avait le compagnon de Célina qui s'appelait Serge.
Voilà.
Donc Serge Lama, évidemment. Ouais. Donc voilà, c'était une très belle vie avec des chevaux, des animaux, des chats, des chiens.
C'était un artiste qui était complètement tourné vers, comme souvent c'est le cas, forcément, vers lui-même, vers son travail, vers son œuvre, ou c'était vraiment un père attentif ?
Alors c'était un papa très attentif. Oui. Très attentif. Il appelait tous les soirs pour savoir comment on allait, comment s'était passée notre journée à l'école. Et puis. Toujours au courant de tout, il faisait attention à nous. Oui. Ouais, toujours très attention. Et quand il était avec toi, il était avec toi.
Ouais.
Et il n'était pas avec quelqu'un d'autre.
Et du coup, alors vous avez continué, vous faites toujours de l'agriculture bio dans le Poitou.
Oui, alors je fais du foin, hein, c'est pas très compliqué non plus. Je nourris mes propres animaux, j'essaye en tous les cas. Et voilà, je tiens la ferme comme je peux.
Voilà, et Claude Lemel, c'est donc là que vous alliez souvent travailler avec Gilbert Bécaud pour ces séances dont vous nous avez parlé. Mais ce qui me frappait aussi dans cette petite interview, c'est qu'il dit que son bonheur, c'est d'écrire des opéras, des cantates, etc. Il prononce pas le mot chanson, mais il y avait toujours chez lui, ou au moins dans une partie de sa vie, de son œuvre d'ailleurs, en témoigne notamment l'opéra d'Arane, mais aussi certaines chansons elles-mêmes, un goût voilà, de la grande forme, un peu théâtrale, au-delà de la simple chanson, me semble-t-il.
Ben, je pense que c'était un homme ambitieux,
oui.
Voilà.
Oui.
Bon, qui avait une haute idée
de la musique,
de l'artisanat
aussi, oui.
Que nous pratiquons,
oui,
bon, de la musique et de la chanson et de tout ce qui peut découler de la cervelle et du cœur d'un homme doué pour la musique. Oui, bon, c'était quelqu'un qui adorait travailler.
Uh-huh.
Voilà, bon. J'ai travaillé avec énormément d'artistes, bon, de toutes les générations, femmes et hommes. Et bon, il est dans mon peloton de tête des gros travailleurs.
Des gros travailleurs.
Hein. Ah oui. Mais vraiment très, très en tête. Hein.
Et alors, Madame Rosa, justement, là, on est encore dans le spectacle musical.
Oui, Madame Rosa, c'était un opéra, une comédie musicale, disons, qu'il avait écrite avec Julien de Mort.
Ouais.
Qui est un auteur donc anglophone et qui a été joué au
tiré
aux États-Unis.
Du roman de Romain Gary.
Ah, bah, c'est La vie devant soi.
Voilà,
bien
devant soi,
évidemment,
hein, voilà.
Qui est un roman absolument fabuleux, bouleversant.
Ouais, ouais.
Et donc, il avait souhaité que j'écrive l'adaptation française de cette comédie musicale. On avait d'ailleurs rajouté des chansons qui n'étaient pas dans la version originale. Malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas encore été joué. J'espère que ça le fera un jour, parce que c'est vraiment très beau.
Mais ça a été enregistré, au moins en partie.
Alors, y a eu quelques chansons qui ont été enregistrées, et en particulier deux chansons enregistrées par Annie Cordy, qui devait jouer le rôle de Madame Rosa, et dont une qui s'appelle Bravo, et où je la trouve absolument extraordinaire.
La guerre, un petit matin, on cogne à la vitre. Un cri, debout la putain, fais ta valise et vite. Dehors l'aurore de juillet, grouillée de flics. Mon Dieu, ces Français, plus pourris que les Fritz. Ils nous ont parqués au vélodrome. Le soleil crachait sur Israël et dans les gradins nos étoiles jaunes qui faisaient honte au ciel. Du Veldiv jusqu'au bus et des bus aux wagons et wagons jusqu'au camp terminus. Et pourtant, moi la mort, j'en suis revenu. Du Veldiv jusqu'au bus, et des bus aux wagons, des wagons jusqu'au camp terminus. J'ai fait partie des vénards, de ces sacrés vénards qui ont revu leur gare. Ah, bravo, bravo, tu as beau me tatouer un numéro, j'ai tiré le bon et crève, c'est moi qui ai eu ta peau. La 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 la. La la.
Annie Cordy, toujours étonnante, parce que on la voit comme une fantaisiste, mais c'était aussi une actrice extraordinaire, hein, quelqu'un d'habité par les rôles qu'elle jouait, y compris dans une chanson comme ici.
C'était incroyable, parce que elle a gardé cette chanson-là dans son tour de chant jusqu'au bout, et elle chantait ça au milieu de Tata Yo-Yo et de Chaud Cacao, donc c'était absolument étonnant. Et elle arrivait à le faire passer, mais sans aucun problème. Les gens étaient scotchés. C'était bouleversant.
Une question que je voulais vous poser aussi, Claude Lemel, Gilbert Bécaud, qui lui était compositeur et très bon musicien, j'imagine qu'il suivait avec attention les séances d'enregistrement, les arrangements, toute la finition d'une chanson.
Très très près, ouais. De très très près, bien sûr. Parlait énormément avec ses arrangeurs, il disait quelles étaient ses idées.
Il donnait ses consignes.
Il faisait changer des choses quand ça ne lui plaisait pas, oui. Donc il était extrêmement attentif à ça, et il avait raison, bien sûr.
Émilie Bécaud, ça a été pour vous une évidence à un moment de chanter des chansons, et notamment où c'est votre père qui d'un coup a eu l'idée de vous pousser à enregistrer quelques-unes avec lui.
C'est plutôt papa qui a eu l'idée, oui. Oui, la toute première, j'avais 5 ans. Donc à 5 ans, t'as pas franchement l'idée d'aller chanter.
Non, on pense pas encore à la carrière de chanteur, non, effectivement.
Donc, c'est lui qui m'avait poussée. Et puis après, pour la deuxième que j'ai faite, La fille au tableau, je me suis un peu fait piéger là sur ce coup-là.
Ouais.
Ouais. Voilà. Mais c'était assez rigolo d'ailleurs, je m'y attendais pas. Et il a bien joué ses cartes.
Voilà.
Ouais.
Donc cette chanson, elle avait été enregistrée et éditée déjà un certain nombre de fois.
Ouais.
Par la suite, vous avez pas vraiment ambitionné de développer cette carrière de chanteuse, puisque vous vous êtes occupée notamment de votre propriété du Poitou. Et c'est revenu depuis quelques années, je crois, l'envie de chanter.
C'est revenu depuis quelques années. En fait, c'est depuis qu'on a fait les 100 ans de Pierre Delanoë que Laurent Ballandras m'a remis sur scène. J'avais pas osé y remettre les pieds depuis que papa était parti, en fait. Uh-huh. Et il a eu raison, parce que grâce à lui, maintenant, je fais des concerts. Voilà. Et je représente papa. En tous les cas, j'essaye de chanter ses chansons au mieux. Les gens sont au rendez-vous, donc m'ont l'air d'être contents.
Oui.
Donc je pense que je dois bien travailler.
Voilà, même si vous avez vraiment repris en 19, c'est-à-dire juste avant que tout s'arrête.
J'avais repris un tout petit peu avant, mais c'est vrai que ça m'a bien mis un petit coup dans l'aile. Mais on revient, on est là, et puis l'hommage est toujours d'actualité.
Voilà, et dans ce disque qui sort, donc Je reviens te chercher, Gilbert Bécaud, qui vient de paraître, et bien le deuxième titre après Je reviens te chercher, c'est My Emotions, un duo un peu spécial entre Gilbert et Émilie, puisque c'est un duo à quelques années de distance. Hein.
Complètement,
Comment ça s'est passé, cette chanson?
Pendant le confinement, on l'a retrouvée avec Laurent en rangeant les affaires.
Il y avait un enregistrement de votre père, donc
Pas vraiment, en fait, il y avait marqué Demis Roussos.
Ah oui.
Donc, j'ai pas vraiment fait gaffe.
Oui.
Et puis, à un moment donné, on a dit, on va quand même écouter. Et puis, on s'est retrouvés. En fait, c'était papa et non pas Demis Roussos.
Voilà.
Mais en fait, on a compris qu'il avait écrite la chanson pour Demis Roussos.
Voilà.
Et en fait, j'avais la version anglaise ou américaine, comme on veut. Et Demis Roussos l'avait faite en français.
Voilà. Et donc, vous avez enregistré dans ce faux duo, si on peut dire.
Voilà, dans ce duo virtuel,
Duo virtuel.
On l'a fait, et ça a marché, et ça a donné cette chanson.
Seeing you standing there, something starts in me. My emotion.
I begin remembering, and I start to free my emotion. My emotion. Pictures flash across my mind, reminding me of what I had with you.
And
somehow I'm back in time, and everything I feel is first I knew. Watching you moving there, I lose all control of my emotions. My emotions.
Half a man without you, you can make me all.
I'm emotion.
Emotion. Nothing matters to me now but following the feeling that I know. Don't care who you came here with, but only that I'm with you when you go. Loving you,
loving you,
that's all I can do.
I'm emotion,
all
My Emotions, duo virtuel donc entre Gilbert Bécaud et sa fille Émilie Bécaud, qui est mon invitée ce matin avec Claude Lemel. Très belle chanson.
Ouais.
Vous êtes ému quand vous l'écoutez.
Bah oui.
Bah oui, bien sûr.
Surtout aujourd'hui.
Surtout aujourd'hui, puisque je rappelle que c'est le 18 décembre 2001 que Gilbert Bécaud nous a quittés, donc il y a 20 ans, jour pour jour. Et donc, ce qui est intéressant aussi, Claude Lemel, dans ce livre, c'est que vous expliquez, pour une part, la difficulté qu'a pu connaître Gilbert Bécaud dans la dernière partie de sa carrière, lui qui avait connu tellement de succès dans les années 50, 60 et encore 70. Comment expliquer cette, disons, un peu perte de faveur auprès du public, et comment expliquer qu'aujourd'hui, on l'ignore un peu? Il y a sûrement des tas de raisons, mais il y en a une que vous donnez peut-être, qu'il avait l'obsession toujours de faire un nouveau tube, lui qu'on avait fait tellement et qui n'avait pas besoin, mais finalement, c'était peut-être pas une obsession tellement positive.
Ben, c'est ce que j'ai essayé de lui expliquer plusieurs fois. Ouais. Mais bon, il avait toujours ce goût de plaire et
cette
envie, bon, très, très enthousiaste, bon, de plaire à la jeunesse.
Ouais.
Et donc, c'est pour ça qu'il voulait vraiment le tube du moment. Et je crois, bon, c'est un homme extrêmement intelligent, Gilbert.
Ouais.
Mais là, il manquait un peu de lucidité par rapport à ça. Et j'ai essayé de lui expliquer qu'il n'avait pas besoin, que, bon, il est un grand classique. Il suffisait qu'on fasse de bonne chanson. Et bon, et lui, il me disait, non, moi, je veux un tube. Bon, voilà, bon, c'est le seul petit différent qu'on a pu avoir.
Mais comment vous expliquez ce passage de mode que tous n'ont pas subi, qu'un Béart a subi aussi, mais qu'un Brassens n'a pas subi? C'est compliqué, tout ça.
Je ne sais pas. Bon, on essaye de l'expliquer un petit peu dans le bouquin, Jacques Pessis et moi.
Ouais.
Mais ce qu'on espère surtout, c'est que ce purgatoire va cesser et que Gilbert va occuper à nouveau la place qu'il mérite, c'est d'ailleurs une des premières.
Et vous évoquez aussi dans le livre une chanson qui est presque une chanson testamentaire, on peut dire, faut faire avec.
Oui, absolument.
En quelques mots,
chanson,
avant qu'on
qu'on aimait beaucoup, beaucoup, Gilbert et moi, et où j'ai mis beaucoup de moi et beaucoup de lui aussi. Ouais. Voilà, et c'est une chanson qui est, je trouve, assez poignante.
Dans le grand silence, la vie commence par une larme. Chaque enfant qui naît, c'est un prophète. Faut faire avec. Il devient debout. L'avenir est lourd dans son cartable. Les années d'acné, les soirs de fête, faut faire avec. La vie avance, irrésistible, impitoyable, sans le moindre plan, le moindre break, faut faire avec. Passe les rêves qui cassent, qui laissent des traces ineffaçables. Ça coûte cher, les faux pokers, les vrais échecs, faut faire avec. Pour tromper sa peur, on met son cœur derrière un masque, on carnavale son idéal, on se gadget, faut faire avec. Quand la vie prend l'eau, nos vieux matelots nous laissent en rade. Quand il nous plaque, pas de comeback, aucun remake, faut faire avec. On peut pourtant défier le temps en regardant la mort en face, puis sans un cri payer le prix des cigarettes, faut faire avec.
Fou. Oh, quelle est belle cette chanson, Claude Demel, merci de l'avoir écrite. Avec Gilbert Bécaud qui semble entrevoir, oui, effectivement, un peu son départ ici, c'est 2 ans avant sa mort, je crois.
Oui, 2 ou 3 ans. Et bon, oui, il y avait un côté quand même prémonitoire. Ouais. Mais dans les chansons, ça arrive, ce genre de choses. Hein,
oui,
ça arrive.
Et
c'est une chanson qu'on aimait beaucoup, Gilbert et moi. Beaucoup, beaucoup.
Voilà, oui, là, on est avec le grand Gilbert Bécaud, avec lequel vous avez pu poursuivre presque jusqu'au bout. Hein,
Jusqu'au bout, on a travaillé encore en 2001, la dernière année. Je me souviens de séances de travail. Encore, on préparait de nouvelles chansons.
Voilà, et vous racontez même votre dernière rencontre avec lui,
ouais,
difficile,
ouais,
évidemment,
oh,
quelques
dur,
temps après sa disparition. Émilie, vous avez des projets de scènes, de chansons,
oui,
de, vous allez continuer maintenant
à
porter la flamme.
Bah, complètement, on continue, et j'espère que toutes les radios aussi vont continuer de porter la flamme.
Ah, en tout cas, dans cette émission, ça fait longtemps qu'on le fait.
Mais je passe aussi le message à tous vos
confrères.
Je peux vous
promettre qu'on continuera, et puis que peut-être d'autres, après Adamo, vont aussi revisiter d'autres façons le répertoire.
Qu'il a déjà fait, Adamo.
Voilà. Voilà, c'est
fait.
Ce que je dis. Oui, voilà,
donc,
c'est ça.
Oui, continuons, je vous en supplie, pour lui.
Voilà, vive Gilbert Bécaud, moi je l'aime. Et alors j'aime des tas de choses chez lui, et y compris une veine un peu plus légère. Là, on est vraiment très 60s. Je ne sais pas si vous aimez cette chanson à l'aéroport d'Orly.
Ah.
On est vraiment dans une autre époque, avec une fraîcheur qui me convient bien, Claude Lemel.
Elle me fait planer.
Elle vous fait planer, carrément. Voilà. Pourtant, du Delanoë, c'est pas du Lemel, là, pour le coup. Vous l'aimez aussi?
Bah, c'est les vacances, hein. C'est
voilà.
Propice aux vacances.
Bah, ça tombe bien aujourd'hui, voilà.
Voilà.
Merci à tous les deux d'avoir été là ce matin.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
À l'escalier, c'est bloc 21. J'habite un très chouette appartement. Que mon père, si tout marche bien, aura payé en moins de 20 ans. On a le confort au maximum, un ascenseur et une salle de bain. On a la télé, le téléphone et la vue sur Paris au lointain. Le dimanche, ma mère fait du rangement pendant que mon père à la télé regarde les sports religieusement. Et moi, j'en profite pour m'en aller. Je m'en vais dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions pour tous les pays, tout l'après-midi, y a de quoi rêver.
endormi dans les idées. Quand je rentre chez moi, la nuit tombée. À 7h05 tous les matins, Nicole et moi, on prend le métro. Comme on dort encore, on ne se dit rien.
Dimanche à Orly, c'était en 1963, le départ en vacances, chanté par Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud que nous avons évoqué ce matin avec mes invités, Claude Lemel, qui co-signe avec Jacques Pessis Bécaud, on revient de chercher aux éditions L'Archipel, et puis Émilie Bécaud, qui parraine ce coffret qui vient de paraître, Je reviens te chercher, 3 CD avec des raretés, avec aussi la voix justement d'Émilie Bécaud. Je vous recommande aussi sur le site de France Musique, des podcasts à redécouvrir, les trésors de France Musique de Christophe Dillis consacré à Gilbert Bécaud, et puis aussi hier un Musicopolis d'Anne-Charlotte Raymond consacré à l'Opéra d'Arran, une des grandes œuvres classiques, si l'on peut dire, de Bécaud.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et à midi, c'est votre petit programme de musique légère, une musique légère très jazzy aujourd'hui, parce que je voulais aussi, avant la fin de l'année, rendre hommage à ce musicien génial qui est né il y a tout juste 100 ans, en 1921, à Pittsburgh, et qui était Monsieur Errol Garner. Lover Come Back, c'était Errol Garner en 1961 au One World Concert. Errol Garner, je l'aime, je l'adore. On en réécoutera un grand morceau pour finir l'émission. Mais il me fait toujours penser aussi à un musicien de la génération précédente qui avait comme lui cette espèce de vitalité, cette joie de vivre communicative extraordinaire. C'était Monsieur Fats Waller. Pas formidable, mais ce sont ces enregistrements radiophoniques d'avant-guerre qui étaient heureusement enregistrés et préservés. Ici, donc, Fats Waller en 1938 dans You Look Good To Me. Et puis, tiens, d'une association à l'autre, de Garner à Waller, je dirais bien de Waller à Georgius. Georgius, chanteur français des années 30-40 aussi, qui avait aussi cette fantaisie, cette énergie et ce caractère jovial qui fait le côté assez génial de ses chansons, des idées par Georgius.
Des idées, j'en ai des idées. Des idées, j'en ai cent, j'en ai mille. Elles sont là, tout en tas, qui se faufilent. Elles entrent dans mon cerveau, s'y bousculent comme dans le métro. J'en ai mille fois trop. Et des idées, j'en fourmille, j'en entasse. Tous les jours, elles accourent, j'ai plus de place. C'est la vérité, ma foi, elles sont logées à l'étroit. J'ai le crâne trop petit pour voir. J'ai inventé les bretelles qui peuvent servir de jartelles, de lance-pierre et de lit de camp et de parachute en même temps. J'ai inventé ces pratiques, le seul mouchoir à musique. Quand on se mouche dans un salon, ça joue le grand air de Manon. J'ai trouvé, c'est ça qui me sauve, l'art d'utiliser les chauves. Je loue leur crâne déplumé comme panneau de publicité. Chaque fois qu'ils saluent une dame, celle-ci peut lire cette réclame. Coiffez-vous chez palpitant, cheveux garantis pour longtemps. Des idées, j'en ai cent, j'en ai mille. Elles sont là, tout en tas, qui se faufilent. Elles entrent dans mon cerveau, s'y bousculent comme dans le métro. J'en ai mille fois trop. Des idées, j'en avais, c'est en mioche. À papa, j'ai cousu toutes les poches. Ma mère ayant dit devant moi qu'il dépensait trop chaque mois. J'ai le crâne trop petit pour voir. J'ai trouvé avant tout le monde le moyen pour que les poules pondent des œufs durs. Ces jeux d'enfants, fleurs donnent des graines en ciment. De même pour nourrir les vaches, en hiver, je leur attache des lunettes vertes sur le museau et je leur donne des copeaux et ma pendule à pédale pour qu'un raseur se cavale. Mon appui, ça sonne minuit, il se croit en retard, il s'enfuit. Et pour aider nos finances, l'impôt qui sauvera la France, tous les cotes, tu payes 3 francs, le budget est en excédent. Des idées, j'en ai 100, j'en ai 1000. Elles sont là tout en temps qui se faufilent. J'ai le plan d'une petite auto qui se plie, qui se met dans le paletot et qui à l'envers peut servir de piano. J'ai trouvé pour les pauvres artistes qui n'ont plus de succès, c'est bien triste, un phono tout petit qui crépisse, qui applaudit, qui trépigne jusqu'à leur sortie. Des idées, j'en ai plein, les méninges. J'ai trouvé la nouvelle pince à linge qui s'allonge à volonté, peut servir de tisonnier, de pince à cornichon ou de pince à épiler. Des idées, j'en ai trop, j'en entasse. Elles font toc, toc et toc, j'ai plus de place. C'est bien simple quand elles me voient, elles se sauvent avec effroi. J'ai le crâne, crâne, crâne trop petit pour voir.
Georgius, en 1939, juste avant la guerre, et juste après la guerre, il y a un autre grand orchestre fantaisiste qui va apparaître, c'est celui de Spike Jonze aux États-Unis, orchestre souvent assez délirant dans ses enregistrements. Là, on va écouter, tiens, c'est l'histoire justement d'une petite fille qui, pour Noël, voudrait qu'on lui redonne ses deux dents de devant. Mais comme elle a plus ses deux dents de devant, ça fait un sifflement chaque fois qu'elle chante, et ça fait un effet très très bizarre que le chanteur de Spike Jonze utilise. C'est d'ailleurs un monsieur qui imite la voix de la petite fille. All I want for Christmas is my two front teeth.
It was the night before Christmas, and all through the house, not a creature was stirring, not even a mouse. Suddenly I heard a strange noise down below, so in my flannel pajamas, I went tippy-toe. I could see your Saint Nick from the spot where I stood, so I slid down the banister just as fast as I could. Christmas is my two front teeth, my two front teeth. See my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. It seems so long since I could say Sister Susie sitting on a thistle. Every time I try to speak, all I do is whistle. All I want for Christmas is my two front teeth, my two front teeth. See my two front teeth? Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas.
Thank you. espérons qu'elle va les avoir, ces deux dents devant pour Noël. En tout cas, la joie de ces fêtes de fin d'année, c'est aussi le temps de l'opérette en décembre et en janvier. Et je voudrais vous signaler, entre autres, même si les programmes d'opérette ne vont pas en augmentant, qu'on pourra assister à plusieurs représentations de valses de Vienne au mois de janvier, à Dijon, à Nancy, à Besançon, à Carcassonne, à Lyon. Cette opérette tirée donc des musiques de Strauss est créée en 1931 à Vienne avant de connaître beaucoup de succès dans son adaptation française.
Ne vous éloignez donc pas,
je suis bien assis.
Approchez fût-ce d'un pas,
j'entends bien d'ici.
Lorsque l'on veut discuter de choses pareilles, on ne peut que les compter tout près de l'oreille.
Abusez, monsieur, vous abusez.
Une yade, c'est très gentil lorsque l'on est de camarades.
Un petit baiser très honnête, jamais n'a fait tourner de tête.
Excusez sinon je m'entête.
Michel Danse et Mado Robin dans ce valse de Vienne, merveilleuse opérette qu'on pourra entendre donc à Paris en ce début 2022. L'autre opérette à succès de l'hiver, et Dieu sait que ça me fait plaisir, c'est Là-haut de Maurice Yvain qu'on a déjà pu entendre à Paris cet automne, et puis ensuite à Marseille dans une autre mise en scène, et ensuite à Dijon dans une autre production. Quel succès! Et ce sera encore en février à Compiègne et à Tourcoing qu'on pourra entendre Là-haut dans la mise en scène de Pascal Néron, en attendant au mois de mars celle des frivolités parisiennes à l'Athénée.
Il y avait un jour une petite fille, très docile, très sage et très gentille, adorant sa maman, son papa, qui répondait au nom d'Anna. Mais hélas, quoi qu'on fasse ou qu'on dise, elle était tellement indécise et manquait tant de volonté qu'on cessait de lui répéter « Hosanna, Hosanna, allons voyons, ose un peu, Hosanna, Hosanna, ose dire ce que tu veux, parle cause, Anna ose, dis quelque chose, dis n'importe quoi, mais dis-le, méfie-toi. » Et crois-moi, à force de lambiner, tu verras qu'ici-bas, tout te passera sous le nez. C'est stupide d'être timide. Hosanna, Hosanna, c'est trop bête d'être bête comme ça. Sitôt sa mort, cela va sans dire, ayant fini sa vie de martyr, saint Anna près du bon Dieu bondit directement au paradis. Mais devant la porte, la pauvrette n'osa pas toucher à la sonnette. Alors, afin qu'elle sonnât, tout le paradis entonna.
Hosanna, Hosanna, allons voyons, ose un peu. Hosanna, Hosanna, ose dire ce que tu veux. Parle, ose, Anna, ose, dis quelque chose. À force de l'embiner, tu verras qu'ici pas, tout te passera sous le nez. C'est stupide, t'es timide. Hosanna, Hosanna, fais trop bête et bête comme ça.
Spéciale dédicace à toutes les Anna, cet extrait de Là-haut, le chef-d'œuvre de l'opérette française des années 20, composé par Maurice Yvain avec les paroles de Albert Villemette et le livret d'Yves Mirand, d'une œuvre qui revient beaucoup, beaucoup à l'affiche et je m'en réjouis en attendant les représentations de février à Compiègne et de mars à l'Athénée à Paris. On se quitte avec Errol Garner, l'extraordinaire grande version de The Man I Love qu'il a enregistrée et qui va tous nous mettre en joie. Errol Garner, qui aurait eu 100 ans en cette année, puisqu'il était né en 1921. Voilà, c'était The Man I Love, enregistré en 1956. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteur préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Xavier Hatto et Maxime de Peretti, réalisation David Travailleur. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un spécial Noël avec des archives et notamment les voix des regrettés Francis Lay et Pierre Barou. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique, où vous avez rendez-vous maintenant avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.